World Ocean Radio.
Radio ya Bahari Dunia.
Radio de l'océan.
La radio océano del mundo.
Champion de l'océan.
Sayansi Bahari.
Solutions to today's ocean issues.
Welcome to World Ocean Radio.
Nous vivons dans une mer de substances nocives. Il y a un peu plus de 50 ans, Rachel Carson, dans ses ouvrages phares Silent Spring and the Sea Around Us, a sonné l'alarme vis-à-vis des dépôts de nombreux produits chimiques dans nos bassins, versants et cours d'eau du fait d'un usage non contrôlé de fertilisants, pesticides, sous-produits de fabrication et déchets. La prise de conscience subite du public a alors résulté, durant les deux décennies qui ont suivi, à la mise en place de certaines législations, régulations et interdictions totales de certaines substances, ainsi que la mise en place d'une tentative de contrôle régional et international de ce qui était alors une nouvelle problématique et un problème de santé. Bien sûr, il y a eu quelques progrès, mais nous devons désormais comprendre que ces avancées n'ont pas été maintenues et que les problèmes sont toujours aussi omniprésents et menaçants qu'avant. Dans une publication dans le Houston Journal of International Law en 2011, David L. Vanderswag, professeur de gestion et de droit des océans à l'Institut de droit marin et environnemental de l'Université de Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, au Canada, a exposé l'état des protections internationales, les approches de gestion, les mesures de précaution, les déclarations et les conventions de contrôle des substances nocives telles que présentées ci-dessous. Je cite « Les substances nocives dans l'environnement sont un problème persistant. Près de 80 000 produits chimiques sont présents sur le marché aux États-Unis, parmi lesquels 200 produits chimiques de synthèse sont trouvés en des quantités mesurables dans le corps des Américains. Plus de 5 milliards de kilogrammes de polluants toxiques sont rejetés ou transférés chaque année en Amérique du Nord. Encore plus inquiétant, les informations toxicologiques générales sont insuffisantes pour la plupart d'entre eux. Le transport longue distance de polluants organiques persistants, POP, et de produits chimiques persistants et bioaccumulables est un problème particulier dans l'Arctique, qui agit comme un puits. Des exemples de POP incluent divers pesticides, des produits chimiques industriels et des sous-produits involontaires. Même des produits chimiques régulièrement utilisés, tels que des produits anti-taches ou anti-adhérents, sur des surfaces de cuisine, se sont retrouvés dans les toiles de l'Arctique. Des niveaux élevés de POP dans la faune de l'Arctique, comme dans ses habitants, créent de véritables préoccupations sanitaires. Les quantités peuvent paraître infimes, mais les sources sont nombreuses et la distribution est vaste. Des preuves qui suggèrent que les effets négatifs de ces contaminants sur les cycles de reproduction et les systèmes immunitaires restent très importantes. En creusant plus, il est clair que ces efforts pour contrôler ces substances, même les premières précautions contre un usage continu et la dispersion, sont très limitées et troublantes, bien qu'elles soient faites avec les meilleures intentions. Une définition des conflits, un manque de recherche, un fardeau de preuves, une dilution politique, des exemptions innombrables, la bureaucratie réglementaire, les échecs de coordination, la volonté politique incertaine et le manque de consensus international, même concernant les accords multilatéraux et les protocoles existants. Pendant ce temps, les problèmes perdurent et croissent à une vitesse effarante. Selon le rapport du secrétaire général de l'ONU en 2009 sur le développement durable, près de 1000 produits chimiques entrent sur le marché tous les ans. Lors d'une conversation récente, professeur Vanderswag a dit que seule une poignée d'entre eux, moins de 25, a été complètement éliminée ou restreint à la production et à la circulation malgré tous les appels pour le changement. Un plan d'action global suggère que 250 activités devraient être implantées pour résoudre le problème d'ici 2020. Mais comme pour de nombreuses déclarations internationales avec des intentions grandioses, l'opposition est toujours présente avec la question de souveraineté nationale et d'intérêts particuliers. De même que l'acidification des océans, le problème est majoritairement invisible, mais il est comparable à la vitalité des écosystèmes marins ainsi qu'à la manière dont l'humanité dépend de l'océan pour l'eau, la nourriture et la santé dans le futur. N'avons-nous pas tous le droit d'avoir un environnement propre, productif et durable? Qu'est-ce qui protège des menaces, des substances nocives qui sont omniprésentes et dont les origines sont méconnues? Comment faisons-nous la différence entre ce qui est bon et ce qui est pire? Et même si nous savions, qu'est-ce qui nous forcerait à choisir une manière qui serait complètement différente de celle antérieure? Nous avons introduit toutes ces substances, nous sommes intervenus, nous avons modifié et joué avec les éléments naturels, et désormais, nous devons vivre avec les résultats. Nous devons commencer à retirer ces poisons et à régénérer les systèmes qui nous ont servi durant des millénaires. Cela demandera le courage de toute une génération.
Nous parlerons de ces sujets et d'autres
dans les prochaines éditions du Radio Monde Océan.
Radio Océan du Monde est un projet de l'Observatoire mondial de l'océan. Visitez-nous en ligne sur le site worldoceanobservatory.org.